Sud Radio, 10h midi, débat.
Comme tous les jours du lundi au vendredi, le débat sur toute l'actualité. C'est pas de 10h à midi, c'est de 11h à midi, 1h, ça suffit quand même pour balayer tout ce qu'il ne fallait pas manquer de la semaine. Alors, je vais faire d'abord un petit tour de table, hein. Je vais vous présenter qui va débattre avec moi ce matin. Bonjour Fatima El-Ouazdi.
Bonjour.
Présidente et cofondatrice de Politiquel, également avec nous William T, président du think tank Le Millénaire. Bonjour, merci d'être avec nous. Peut-être un petit peu plus près du micro, ça sera plus facile comme ça. Benjamin Lucas, membre du mouvement Génération,
bonjour,
merci d'être avec nous. Et Mathieu Alterman, journaliste, bonjour. Auteur notamment des Larmes de Johnny aux éditions Carnet Nord.
Oui, entre autres. Oui,
entre autres, effectivement, il y en a d'autres. On ne va pas tous les citer,
non,
quand
mais
même.
C'est pas très représentatif de l'émission, je crois, mais bon, c'est
en
gentil
plus,
là, on va
en plus,
parler.
Mais c'est presque celui le plus d'actualité, on va
oui,
dire,
c'est vrai, bien sûr.
Par rapport à la sortie du dernier album de Johnny Hallyday. Alors, on ne va pas trop bousculer vos habitudes à tous. Hein. On fait d'abord le point sur vos coups de cœur ou coups de gueule de la semaine. Et on commence avec vous, Fatima. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité ces derniers jours?
Alors, moi, je vais rester dans le thème de Halloween. Moi, ce qui m'a énormément marqué, c'est la purge. Le phénomène de la purge. Alors, comme beaucoup de Français, j'ai été sidérée par l'appel de ce jeune homme sur les réseaux sociaux à une purge contre les forces de l'ordre, les policiers qui nous protègent tous les jours, en disant aux jeunes, allez-y, sortez dans la rue, masquez-vous et prenez toute arme à votre disposition et allez casser du flic. Hélas, pour moi, les réseaux sociaux, ce ne sont pas une blague, comme ça a été la ligne de défense de ce jeune qui, tout de suite, face à l'ampleur du phénomène, a dit, non mais faites pas, je rigolais, mais ce n'est pas une blague. Et on ne peut pas tout dire et on ne peut pas rechercher tout le temps le buzz ou les likes comme beaucoup de jeunes le font. Et moi, c'est ce que je regrette aujourd'hui, c'est que cette image que certains jeunes ont qu'il faut absolument casser du flic alors que les policiers justement sont là pour notre protection, et après dans le même temps on entend ces mêmes personnes là qui vont dire ah non mais attention hein, aux violences policières. Donc en fait on a un petit peu ce double discours qui est un peu effrayant, et quelque part j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait pour apaiser la situation.
Est-ce qu'il y a en plus une mauvaise influence peut-être, on va faire un rapide tour de table sur la question, en l'occurrence du cinéma américain puisqu'il s'est inspiré d'un film, hein, American Nightmare, William T, est-ce que selon vous il y a peut-être une trop forte exposition aussi d'une partie de la jeunesse à ce type de contenu. Au final, violence, c'est ce qui revient assez régulièrement. Est-ce que ça peut être suffisant comme excuse face à cet événement ?
Je pense que ça ne suffit pas comme excuse, mais après, il y a une question de génération. Quand on regarde notre génération actuelle, et puis on a à peu près tous le même âge ici, on voit bien que ce qui nous intéresse, c'est les réseaux sociaux, le nombre de likes qu'on fait, les photos qu'on met sur Instagram. Et ça rejoint une attitude qui est diffusée, principalement une attitude plutôt anglo-saxonne, qui se diffuse à se mettre en valeur, à chercher le buzz, à essayer de devenir populaire, devenir sa star de sa communauté. En fait, on parle à sa communauté, mais on devient un acteur de sa communauté plutôt qu'un acteur.
C'est une drôle de manière d'être populaire quand même, Mathieu Alterman.
Non, mais pour son milieu, je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était bien et qui lui ont dit bravo, tu te.
Mais donc il y a eu des retours.
Non, mais être connu, enfin, c'est faut être connu pour les bonnes raisons.
C'est pas la meilleure manière d'être connu.
Mais même être connu.
Oui, mais le problème c'est parce que nous on a une grille de lecture entre guillemets logique. Le problème c'est qu'aujourd'hui casser du flic, c'est comme aller faire un foot ou aller vendre de la drogue. Pour ces gens-là,
sûr,
c'est un truc, c'est devenu un hobby, en fait. Casser du flic est devenu un hobby. Voilà. Et un hobby qui rend héroïque, bien entendu. Donc c'est ça le drame, c'est qu'en fait, il n'y a plus du tout d'échelle de valeur dans ce qu'on encourage à faire, c'est n'importe quoi. Et puis alors pour Pâques, on va casser du flic déguisé en poule au chocolat. Et puis
non,
alors,
suivant
les fêtes, puisque là, Halloween, il fallait mettre un masque.
Okay.
Pour Noël, je sais pas, on peut aussi trouver des
super Noël. J'entends l'argument de la sous-culture américaine qui veut Halloween, etc. Mais je veux dire, quand il y a Mardi Gras, on va pas casser du flic pour autant. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut un petit peu rationaliser les choses. Toute fête ne doit pas devenir un prétexte à des émeutes urbaines. À du cassage de flics, à des agressions
sexuelles
ou non. Oui,
parce que c'est un événement qui se généralise un petit peu, parce que là, on
a mis la lumière là-dessus
à cause
public,
de ce poste de la purge, mais c'est pas la première fois que ça arrive.
À chaque fois qu'il y a de grands événements publics ou des fêtes populaires, c'est tout de suite un prétexte à foutre le bordel. En France, ces derniers temps, c'est la vérité. Quand on a vu, je suis désolée, la fête à la suite de la victoire des Bleus, Mais c'était dramatique. Il y a eu des morts quand même. Hein. Je veux dire, on peut pas tout faire dans l'espace public. Il faut un petit peu d'ordre public.
Il y a eu beaucoup de débordements, effectivement. Bien
sûr.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas uniquement en fait dans chaque manifestation publique. C'est le cas de tous les jours. Quand on regarde dans les banlieues, est-ce que dénoncer Gérard Davé, Fabrice Lhomme, tel territoire totalement islamisé, ça se passe tous les jours.
Oui, enfin, ils se servent d'événements pour mettre le hashtag qui correspond à l'événement. C'est-à-dire qu'il casse du flic, hashtag Halloween, casse du flic, hashtag
Coupe du Monde. Casse du flic tous les jours.
On va passer aux autres coups de cœur, coups de gueule de la semaine. Benjamin Lucas, le vôtre.
Eh bien, moi, j'ai un petit droit de suite, puisque sur votre plateau, il y a quelques jours, Mehdi Ouraoui, un autre porte-parole de Génération, évoquait le cas de la maternité du Blanc, maternité dans l'Indre, dans laquelle s'est rendu Benoît Hamon, qui va être fermée par l'État. Ce mardi matin, la réponse qu'ont eu les habitants, les élus, les personnels qui occupaient pacifiquement cette maternité, la réponse du gouvernement, ça a été comme à chaque fois, une réponse en trois mots, c'est en trois lettres, CRS. Comme pour les étudiants qui occupaient leur université pour demander quoi, des conditions dignes d'études, comme les cheminots qui se battent pour le service public et la dignité de l'emploi, comme à chaque fois qu'il y a dans ce pays un mouvement de protestation, la réponse de Madame Buzyn, la ministre de la Santé, mais plus globalement du gouvernement, c'est une réponse de mépris. On a envoyé les CRS à des gens qui demandaient finalement quoi ? Simplement l'accès au service public de santé et à une maternité qui, enfermant, va obliger aujourd'hui des femmes à faire des dizaines, des centaines de kilomètres pour pouvoir accoucher. Donc je voulais partager ce coup de gueule et ce coup de cœur pour ceux qui se mobilisent là-bas, parce que leur cas n'est pas isolé. Hein. Beaucoup de territoires aujourd'hui dans la République sont abandonnés par les services publics.
C'est un sujet qui revient dans pas mal de zones, effectivement. William, t'es votre coup de gueule
J'avais choisi le même coup de gueule, mais du coup, je vais étendre. Ça rejoint ce qui s'est passé avec un élève qui braquait une institutrice, ce qui se passe dans les banlieues avec des chauffeurs de bus qui se font caillasser tous les jours.
Deux d'entre eux ont été mis en garde à vue, hein, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et puis il y avait c'est ce qui a été annoncé avant l'émission, un CRS qui se fait tabasser par 10 personnes. Ce qui se passe, c'est ce que dénonçait Gérard Collomb quand il a quitté Place Beauvau. Il a eu un moment de lucidité. Il énonçait qu'aujourd'hui on vivait côte à côte et que demain nous allons vivre face à face. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que disait Samuel Huntington dans Le Choc des civilisations, sauf que cette fois-ci, c'est pas une guerre internationale entre civilisations, c'est une guerre intérieure du territoire français. Il y a des territoires de France qui sont complètement perdus, qu'il faut partir à la reconquête de ces territoires, et c'est pas en jouant les assistantes sociales avec un service universel qui uniquement, en fait, va demander à des militaires de jouer au foot avec des gamins qui va servir à quelque chose.
Mathieu Alterman, votre coup de cœur.
Excellent transition avec mon coup de cœur.
Oui, effectivement.
Qui est le livre de Marc.
Absolument pas fait exprès. Hein.
Non, qui est le livre de Marc Wetzmann, qui s'appelle Un temps pour haïr, sorti chez Grasset, qui a une somme de 700 pages où il étudie tous les mécanismes qui font qu'aujourd'hui la France est devenue un laboratoire de haine en Europe. Que ce soit pour le djihadisme, que ce soit pour en fait tout ce qui ne va pas, en gros. Il rencontre les gens sur place qui sont partis en Syrie, les familles, il fait une analyse du milieu culturel, les mélanges de concepts qui créent ce souci. Et surtout, il ne propose pas de solution, parce que moi, je me méfie toujours des gens qui proposent des solutions miracles, parce que ça n'existe jamais. Lui, il fait juste une analyse purement intellectuelle, un constat très fouillé. C'est le résultat de 4 ans de travail. Le livre, il est quand même sélectionné au Renaudot, au Fémina. Enfin, c'est vraiment un truc. C'est le meilleur livre jamais fait sur le sujet. Et je dois dire, je ne le connais pas, contrairement à ce qu'on peut croire quand j'en parle.
On va remettre une couche. Marc Wetzmann, Un temps pour ailleurs, c'est aux éditions Grasset. C'est donc le conseil littéraire de Mathieu Alterman ce matin dans le débat sur Sud Radio. Vous restez bien avec nous dans quelques instants. On va aborder 3 sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Une polémique autour du clip sur les élections européennes, le clip du gouvernement, évidemment. On reviendra également sur le mouvement du 17 novembre. Est-ce que pour vous, il est vraiment un politique? On se pose quand même la question, de plus en plus d'ailleurs, quand on voit notamment les réactions sur les réseaux sociaux. Et puis, on parlera de ce prêtre lanceur d'alerte autour de la pédophilie dans l'Église. Il a été mis à pied, sanctionné par sa hiérarchie. On y reviendra au cours de l'émission. Vous restez bien avec nous et puis vous réagissez bien sûr 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, débat.
On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette polémique, polémique autour du clip du gouvernement sur les élections européennes. Alors, est-ce que c'est une propagande ratée ou un retour en force de la majorité? C'est la question qu'on vous pose, à vous, auditrices, auditeurs de Sud Radio. Vous en parlez avec nous, 0826 300 300, et sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et c'est également la question que je pose à mes invités pour en débattre ce matin sur Sud Radio. Fatima El-Ouazdi, présidente et cofondatrice de Politiquel, William T., président du think tank Le Millénaire, Benjamin Lucas du mouvement Génération et Mathieu Alterman, journaliste. Il y avait quelque chose quand même derrière tout ça, derrière ce clip. Est-ce que le but caché n'était pas au final de parler du scrutin européen? Si c'est le cas, c'est une réussite. Alors peut-être pas dans le bon sens attendu par le gouvernement. Donc ce clip diffusé sur le compte YouTube le 26 octobre dernier, il a dépassé le million de vues quand même. Courte vidéo, montage assez anxiogène, on va le dire comme ça, avec un ton qui n'est pas très neutre. Immigration, maîtriser ou subir, emploi, partenaire ou concurrent, Europe, union ou division. Voilà, ça c'est les messages qu'on peut y lire. On y voit aussi Matteo Salvini, on y voit Viktor Orban, qui sont clairement ciblés par Emmanuel Macron dans cette pré-campagne à l'élection européenne. L'opposition hurle à la propagande et c'est le cas de Génération, donc ça tombe bien, on a un membre de Génération avec nous. Génération qui a réagi très vivement via Twitter. Vous y allez quand même assez fort, vous dénoncez un contenu totalement orienté. Et je souligne quand même avec un brin de provocation, évidemment, que vous adoptez pour l'occasion le même ton, sensiblement le même ton que les Républicains ou le Rassemblement National. Il y a une cohésion d'idées dans la lutte contre ce clip ou pas du tout?
Ah, pas sur le fond du message, parce qu'on y reviendra, mais moi je dénonce notamment le caractère nauséabond de la façon dont est présentée la question de l'immigration, mais il y a quelque chose de choquant quand même, c'est que une campagne électorale, on ne fait pas campagne pour un parti avec les moyens du gouvernement. Et là, c'est ça, c'est un clip de campagne financé par le gouvernement. Il y a une confiscation démocratique avec ce clip-là qui est à l'œuvre. Donc, c'est ça que nous dénonçons. Nous demandons à ce qu'il soit retiré, à ce que ce soit intégré au compte de campagne de La République En Marche. Enfin, on est déjà dans une phase de pré-campagne électorale dans laquelle on ne peut pas tout faire. Et ça rappelle un peu l'ORTF ou les pires heures du sarkozisme, quand même, cette histoire.
Et là, vous rejoignez quand même Jean-Frédéric Poisson qui, lui, a carrément saisi le président de la commission des comptes de campagne.
Nous l'avons saisi, mais Jean-Frédéric Poisson n'est pas mon sujet, mais moi je crois que c'est plus grave ce qui se passe.
Mais vous êtes d'accord avec lui, quand même, pour vous c'était nécessaire de saisir le président des comptes de campagne.
On le voit avec les nominations de complaisance, on le voit avec cette désinhibition complète qu'a le pouvoir. Quand on a été élu, comme c'est le cas d'Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen, avec les bulletins de millions de Français qui voulaient uniquement faire barrage à l'extrême droite, on se doit de préserver la démocratie. La démocratie, c'est une éthique, ce sont des règles. Et on ne peut pas faire n'importe quoi, et c'est n'importe quoi.
Fatima Loisy, la République En Marche ne nous a pas forcément... habitué à des couacs de communication. Souvent, non, c'était assez léché. Là, c'est raté.
Alors,
ou...
Moi, j'aimerais juste resituer un peu le contexte de cette publicité que j'ai regardée ce matin. C'est juste des photos et un texte et une musique. Et à la fin, il y a marqué « Oui, je vote ». C'est une campagne pour sensibiliser les personnes à voter aux élections européennes où il y a quand même un fort taux d'abstention. Faut pas non plus se leurrer sur la question. Il faut juste sensibiliser, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'Europe, on parle de progressisme contre les réactionnaires, on parle justement de Salvini contre Macron, etc. Mais justement, je trouve que c'est bien juste de restituer le débat, et je trouve que qu'on soit...
Mais le débat, c'est pas Salvini contre Macron, les deux se servent mutuellement. La politique de l'un aide celle de l'autre. Donc, on voit bien.
Non, mais dans l'imaginaire des gens, on a Salvini...
Juste laisser finir Fatima Loisy, puis on va donner la parole.
Moi, cette publicité, ou cette annonce, ou ce clip ne m'a pas choquée. Je trouve que c'est du devoir aussi du gouvernement, et donc du secrétariat à l'information au gouvernement, donc le SIG, de faire son travail et d'inciter les personnes à aller voter. Est-ce que le ton est un petit peu anxiogène de la musique? Je suis peut-être d'accord sur ce point-là. Maintenant, pour moi, c'est un appel au vote, comme aux autres. Enfin, là, je suis désolée, les Français, ils doivent choisir quelle Europe on veut aujourd'hui, et c'est absolument critique, hein. C'est une question qui est critique aujourd'hui.
Mathieu Alterman.
Je suis bien entendu d'accord pour la plupart des choses que vous venez d'avancer. C'est un clip qui est là pour ramener un petit peu l'Europe au centre du débat, alors qu'on nous parle déjà des municipales qui auront lieu un an après, et j'ai pas envie qu'on parle des municipales. J'ai pas envie d'entendre des gens qui me disent « Oui, mais en Europe, il y a des technocrates, mais ces gens-là ne votent pas pour des gens qui pourraient les représenter à l'Europe. » Et je tiens à dire que je trouve que c'est un formidable coup de communication, puisque c'est un piège tendu pour les partis qui aujourd'hui ne sont pas contents. En fait, Macron...
Tout le monde s'y précipite et ça ressent le voilà, justement sur les Européennes.
Et vous êtes tombé dans le piège, mais alors, complètement. Ils font un clip pour inciter les gens à voter, pour dire « faites gaffe », parce qu'il y a quand même une montée des populistes très dangereuse.
Ils veulent confisquer le débat, ils veulent faire croire.
Mais pas du tout. Ils attendent que vous disiez ça.
Le débat, c'est entre eux et les fachos, d'accord. Sauf que eux, quand l'Aquarius est là, ils tournent le regard, sauf que eux, avec Gérard Collomb, ils mènent la politique migratoire de l'extrême droite.
Ils ne disent pas eux, c'est vous qui dites que c'est eux.
Prenons l'exemple de l'immigration, ils disent «
vous êtes tombé dans le piège ».
Avec une musique angoissante, ça veut dire quoi « maîtriser ou subir » Ça veut dire «
vous êtes tombé dans le piège ».
Le curseur d'expulsion.
Sincèrement, avec tout le respect.
En campagne, il va dire « regardez, on a eu des partis qui nous disent « ah, c'est horrible, machin », alors c'est pas du tout ce qu'on disait.
On n'a pas entendu William sur le sujet. On écoute son avis et après je vous redonne la parole.
Mais il y a des éléments qui sont intéressants. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça a provoqué une hausse de l'intérêt. C'est là où a bien joué Emmanuel Macron. Seulement Emmanuel Macron, on a pu voir lors des derniers, parce qu'il y a quand même des antécédents. Il avait quand même un projet de loi pour augmenter le temps de parole d'En Marche au niveau d'antenne et diviser par 10 les partis d'opposition, notamment celui de la France Insoumise. On a vu qu'il a fait une loi sur les fake news. On a vu qu'il a mandaté une agence pour ficher les utilisateurs de Twitter qui tweetaient contre l'affaire Benalla. Et alors, il utilise tous ces moyens-là alors qu'il demandait des sanctions contre Viktor Orban, apparemment parce qu'il proclamait la démocratie libérale et qu'il était contre la démocratie en Europe. Et Macron, on voit avec les différents éléments qu'il fait, et en plus il met Christophe Castaner pour faire du tripatouillage électoral en vue du campagne de circonscription.
Non,
c'est intéressant.
Vous dites tout ça au micro d'une radio qui est diffusée dans toute la France. France. Donc à un moment, nous, non, nous ne sommes pas comme une dictature, sinon vous seriez même non, pas
dans le studio, monsieur. J'ai pas dit que c'était une dictature. J'ai dit que Macron utilisait les moyens du gouvernement pour faire campagne parce qu'il est en train de tomber.
Fatima
Loisy, vous, c'est incroyable.
Ça vous a pas particulièrement choqué pour vous?
Non, mais en fait, avec tout le respect que j'ai pour Génération, le mouvement de Benoît Hamon, je pense qu'ils feront 1% aux élections européennes. Et encore, je suis gentille. Il faut un petit peu être réaliste dans le sens où.
Je vous parle inverse, mais on verra.
Non, mais
ce que je veux dire. Avant les électeurs,
bien sûr, mais parce que je pense que c'est assez dingue la façon dont vous avez réagi. Moi, j'ai lu votre communiqué de presse, je l'ai trouvé, mais totalement sous ce que. Enfin, je veux dire, vous saisissez la campagne des comptes de campagne, alors que clairement, c'est pas un clip du gouvernement, c'est pas un clip de la République En Marche. Je vois pas de quelle règle vous parlez.
Qu'est-ce qui vous gêne,
puisque vous êtes d'accord avec ça? C'est ça que je ne comprends pas. C'est quand même dingue.
Je vais essayer de Benjamin Lucas.
D'abord, ce n'est pas un clip d'incitation au vote. Un clip d'incitation au vote, il pose un impératif démocratique, il pose les enjeux, etc. Là, il ne pose pas les enjeux.
Je reprends l'exemple
de l'immigration.
Et qui incite à voter à la
subir, ce sont les éléments de langage de la droite dure ou de l'extrême droite. Ce sont les éléments de langage, la droite dure ou l'extrême droite. Parce que on pourrait poser la question, ou refuser l'accueil.
C'est vrai que vous attardez sur ce point. C'est pas le cas d'autres partis politiques qui proposent
une autre chose.
On accueille tout le monde sans aucun compromis. Nous proposons un accueil digne aujourd'hui des exilés, ce qui n'est pas fait par ce gouvernement qui aujourd'hui essaye de se
donner. Vous avez parlé de la Corus. La Corus, c'est une situation assez particulière parce que ce sont des gens qui se font, je suis désolée, qui font le jeu des passeurs. Et la France, à chaque fois, a joué son rôle d'accueil.
On ne peut pas insulter des gens qui, eux, sauvent des vies en Méditerranée pendant que nous, on débat sur des plateaux. Donc, en fait, dites pas la Corius fait le jeu des passeurs. Bien c'est scandaleux ce que vous dites. C'est honteux d'insulter des gens qui sauvent des vies.
On est dans le
16e arrondissement de Paris à disserter sur la
Corius. C'est très intéressant.
Et pendant que vous les insultez, eux, ils sauvent des vies. Eux, ils sauvent des femmes, des enfants.
Vous avez tort tous les deux.
Ils ont peur de mourir.
Les réfugiés ne veulent pas venir en France, ils veulent juste en Angleterre. Là au lieu du boulot. Donc déjà, vous êtes
en train de se noyer dans la mer, on se soucie pas sur quel pays va l'arrêter.
On les sauve. C'est que dalle. Au niveau arithmétique, c'est grave, mais c'est rien. Au niveau arithmétique, c'est pas le propos.
Donc vous voyez qu'il n'y a pas de menace de submersion.
Il n'y a aucune menace de submersion.
Il
n'y a aucune menace d'être submergé en France.
Il y a 400 000 personnes qui
sont submergées. Donc on met dans un clip
qui va subir l'immigration. Je ne comprends pas ce qui vous gêne. Mais parce qu'ils disent pas subir, ils disent soit.
Si, maîtriser ou subir. Ils disent maîtriser ou subir.
En gros, il y a un camp d'extrémistes qui disent il faut tout bloquer et d'autres qui disent faut accueillir de manière réfléchie. Et c'est ça, vous n'allez pas dire une troisième chose. Parce
qu'aujourd'hui, le gouvernement, il n'accueille pas de manière réfléchie. Il accueille
le
pas.
Gouvernement il ne parle pas de lui, ce sont les élections européennes. Nous ne votons pas pour la politique du gouvernement.
Après
en
Mathieu Alterman, il y a quand même La République En Marche va forcément présenter une liste. Et la majorité
se situe quand même
est
beaucoup plus proche d'un centre-gauche que de la politique sur l'immigration des femmes.
La loi Asile, l'immigration de Gérard Collomb, excusez-moi, c'est la loi la plus brutale, la plus répressive depuis 1945.
Mais qui est quasiment la même que la totalité des pays dans le monde.
On n'a pas beaucoup entendu William T sur le sujet.
On peut se comparer à Trump et Orban. C'est vrai que
c'est un débat clivant.
Non, mais enfin, tous les autres pays ont la même.
On va faire couper les micros, sera plus simple. On laissera ouvert celui de William T. On
vous écoute. Faut se mettre d'accord. Je veux bien croire que la communication du gouvernement est d'inciter les gens à voter, mais c'est la première fois, et on peut regarder dans n'importe quel pays, c'est la première fois qu'un appareil gouvernemental dans une démocratie occidentale utilise un tel clip pour inciter les gens à voter sur ces thèmes de campagne, et en vue, et en plus Emmanuel Macron a dit lui-même que c'était l'élection la plus importante de son quinquennat.
Mais est-ce qu'il va réussir justement à lui redonner cette importance-là? A priori, ça suscite les passions. Est-ce que ça peut le faire sur la longueur, sur la durée?
Mais bien sûr que les gens vont se sentir concernés par l'Europe, parce qu'en fait, on en parle tous les jours. Quand on a les politiques qui nous répètent en boucle que la directive sur les travailleurs détachés,
Fatima Loisy, vous avez commencé votre argumentation en disant que justement, c'était une élection qui n'était pas très suivie.
Ah non, mais elle n'est pas suivie, je veux dire, électoralement, les gens pas voter. Par contre, les gens savent que l'Europe décide de tout presque. L'Union européenne décide presque de tout. Mais les gens ne se mobilisent pas dans les urnes. Ils votent Front National, comme on l'a vu dans les élections, dans les dernières élections. Et c'était dramatique, parce que ce sont des personnes en plus qui ne siègent pas au Parlement européen. Et ça, il faut le rappeler, ce sont des personnes qui sont là juste pour faire de la figuration et pour dire on va détruire l'Europe de l'intérieur.
C'est extrêmement caricatural.
Oui, voilà.
Rappelons-nous juste une chose.
On a vu juste ce à quoi ça nous a...
Mais rappelons-nous, 1993, le vote pour le traité de Maastricht. Qui va prendre la campagne du
92.
Qui va être le roi de la campagne, ça? François Mitterrand.
Oui.
Personne ne reproche à François Mitterrand de faire la campagne, avec en face de lui les chantres du comte qui sont Pasqua
mais,
et Séguin.
Non mais
ils
Jacques
sont
Pilon,
engagés, on ne dit rien, il n'y a aucun
mais,
problème.
Monsieur Jacques Pilon n'a pas utilisé les moyens du gouvernement pour faire campagne pour le référendum.
Clairement, Mitterrand a utilisé les moyens du gouvernement.
Deux choses. Benjamin Lucas sur le sujet.
Moi, je suis particulièrement étendu. Je me souviens de 2005. 2005, il y avait une campagne officielle gouvernementale pour le oui. C'est le non qui l'a emporté. Donc, je suis rassuré. Le gouvernement... D'ailleurs, ce clip, il montre une chose. C'est qu'il a peur.
Oui.
C'est que la majorité, elle a peur parce qu'elle sent bien. Voilà. Et une deuxième chose. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, en plus de tout le reste, qui est, à mon sens, le fait que le vrai danger aujourd'hui, c'est que les nationalistes, les racistes, les fascistes, appelons-les comme cela, prennent le pouvoir en Europe. Parce qu'ils sont déjà au pouvoir dans
vous
beaucoup de pays.
Vous auriez pu rajouter nazis aussi, non ?
Bah, oui, bah, par exemple, l'AFD allemand sont des néo-nazis, j'ai aucun problème à l'assumer. Oui, monsieur, je crois que quand on organise le tabassage d'étrangers dans les rues,
on est à 1 minute, pour finir, si on considère que l'objectif, c'est aujourd'hui d'empêcher cette extrême droite
nationaliste, raciste et xénophobe d'accéder au pouvoir en Europe, alors le meilleur rempart, ce n'est pas la politique libérale de M. Macron, ce n'est pas l'austérité qui, en Europe aujourd'hui, conduit à de la désespérance, à du chômage, à des crises, qui ne prend pas à bras-le-corps le problème de la transition écologique, etc. Et donc, qu'il faut une alternative humaniste, écologiste et progressiste, réellement progressiste, à l'extrême droite. Et donc, de ce point de vue-là, ce clip n'est pas une réponse
à
cela.
Ça suscite en tout cas le débat. On pourra bien sûr y revenir sur Sud Radio, sur les élections européennes qui auront lieu, on le rappelle, le 26 mai 2019. Je vais y arriver. en espérant que ça se passe de manière un petit peu plus calme d'ici là. J'en doute un peu, mais si ça permet d'intéresser les gens aux élections européennes, ça sera quand même pas plus mal. Grâce à vous, je pense que effectivement, ça a au moins créé la division, j'en suis certain, sur les réseaux sociaux. Justement, vous y intervenez pour nous dire ce que vous en pensez. Vous nous appelez au 0826 300 300 dans quelques instants, juste après la pub. On parle du mouvement du 17 novembre. On se demande si c'est bien un mouvement apolitique. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, débat.
Allez, on passe au deuxième sujet de ce débat. On vous parle du mouvement du 17 novembre. Et on se pose la question, est-ce que c'est vraiment un mouvement apolitique ? La polémique enfle notamment sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle donc ce mouvement du 17 novembre prochain. C'est un appel au blocage des routes pour protester contre la hausse du prix des carburants. Alors, il y a plusieurs polémiques qui s'entrecroisent. On va en parler. On va surtout s'attarder sur le traitement politique de l'événement, qui est un événement globalement assez suivi. Il y a un sondage Odoxa pour le Figaro qui estime que 3/4 des sondés, quand même 78% à peu près, trouvent l'appel justifié, y compris chez les sympathisants de La République En Marche. C'est dire à quel point quand même si ça fait consensus, puisqu'ils sont environ 55% à trouver cet appel au blocage justifié. On en parle avec vous, parlons vrai sur Sud Radio 0826 300 300. On est en ligne avec Christophe qui nous appelle du Tarn. Bonjour Christophe.
Alors oui, bonjour.
On vous écoute. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement du 17 novembre ?
Ah ben, j'ai dit qu'on a raison d'aller manifester. C'est tous les prétextes pour nous mettre des taxes. Et le carburant, nous, on n'est pas maître du jeu. On nous impose du gasoil depuis des années. On a des machines qui tournent au gasoil et on n'a pas d'alternative pour nous les remplacer. Donc, au bout d'un moment, on nous étrangle, on nous étouffe.
Et pour vous, Christophe, il n'y a pas de récupération politique de ce mouvement ?
Non, il n'y a pas de récupération politique, hein. C'est de la preuve, c'est tout le monde qui manifeste. Hein. On en voit de tous bords, enfin, il y a tout le monde qui, quand on discute, c'est avec tout le monde qui manifeste. Donc, il y en a qui n'iront pas, mais enfin, moi ce que je regrette, c'est que ce soit un samedi, je préfère que ce soit en semaine. Il y aurait peut-être plus d'impact encore.
Alors c'est un argument, Christophe, que va reprendre à son compte un de nos débatteurs, Mathieu Alterman, journaliste, qui nous disait, justement, on en parlait
La semaine,
à la pause, voilà, que ça ne risquait pas d'avoir beaucoup d'impact.
Je comprends complètement la colère, mais moi il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'on accuse le gouvernement, on n'a jamais vu le gouvernement, quel qu'il soit l'étiquette politique, baisser d'un coup fortement le prix de l'essence. Bon. Mais pourquoi on ne s'en prendrait pas aussi au pays de l'OPEP, qui augmente le prix du baril, plus les voitures consomment moins. C'est-à-dire que finalement, les voitures aujourd'hui, les véhicules consomment beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans, finalement. Donc, ils augmentent le prix du baril pour ne pas vendre moins, en globalité.
C'est prix volume, hein.
C'est
basique en
stratégie.
C'est
ça le vrai scandale.
C'est une leçon d'économie.
Le scandale absolu, il est là. C'est que c'est quand même des pays, dont l'Arabie Saoudite, qui est en train de massacrer le Yémen, par exemple. Ça, on pourrait d'ailleurs dire, on arrête de prendre de l'essence à des pays qui sont en train de jeter des bombes et faire C'est ça, c'est un vrai argument.
Il y a beaucoup d'argent en jeu quand même.
Mais il y a un moment, attendez. On achète des voitures qui consomment moins, mais on se retrouve à payer exactement le même prix parce qu'il y a une augmentation du prix du baril. Le scandale, il est là.
On va recentrer le débat sur la question qu'on vous pose aujourd'hui, hein, à savoir si c'est apolitique ou non. On entendait Christophe qui nous appelait au 0826 300 300 qui disait lui que c'était tout le monde qui était réuni. Alors ça, c'est quand même un peu sur le papier. Quand on voit dans les faits, quand on se penche un peu plus près sur les réseaux sociaux notamment, on se rend compte que l'appel est assez régulièrement repris, notamment par des sympathisants d'extrême droite. Alors ça fait grincer des dents, notamment chez la France Insoumise, qui est un peu gênée aux entournures. Jean-Luc Mélenchon a notamment été alerté par CGT et Solidaire Fatima El Ouazdi. Est-ce que la France Insoumise a un petit peu intérêt à faire attention à ce genre de mouvement ?
Bah oui, parce que déjà dans le programme de Mélenchon, on était clairement dans une politique plus verte. Moi, je me souviens de son interview dans On n'est pas couché, où pendant 20 minutes, il nous dit « oui, il faut sauver la planète ». Donc moi, ça me ferait doucement rigoler s'il commence à nous dire « non mais oui, il faut manifester, la hausse des prix du carburant, c'est totalement démagogique ». Alors que justement, je pense que s'il était au pouvoir, il aurait fait, la même chose. Est-ce qu'il doit faire attention ? Oui, parce que politiquement, on a quand même une récupération de la droite un peu réactionnaire de Wauquiez et de l'extrême droite du Front National.
Vous avez tous donc, tendance à qualifier les gens réactionnaires, nazis.
Oui, non, mais pour
etc.
moi, Laurent Wauquiez est réactionnaire.
Il faut arrêter de qualifier les gens comme ça, ça ne marche pas. Hein. Et je fais ce que je veux.
Si j'ai envie de labelliser telle personne, on a le droit de.
On a un avis sur Marine Le Pen en 2022, si vous continuez comme ça.
Oui, évidemment.
Alors, Marine Le Pen, qui d'ailleurs a indiqué sur notre antenne, c'était mercredi, qu'elle soutenait cet appel au blocage du 17 novembre.
Mais oui, mais parce que.
Rassemblement national.
Que c'est la France des villes contre la France des champs. Pour Marine Le Pen, il ne faut pas oublier que son électorat, souvent, c'est un électorat ouvrier, un électorat un peu plus rural que, par exemple, Emmanuel Macron. Et que, bien évidemment, elle va soutenir cet appel de ces gens-là qui se sentent un peu délaissés parce qu'ils ont besoin de leur voiture pour aller au travail et qui subissent de plein fouet cette hausse de carburant qui est certes, je comprends, difficile, mais qui rentre aussi dans un projet un peu plus global de transition énergétique. Maintenant, je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas non plus très aisé d'acheter une voiture électrique parce que ça coûte cher, etc.
Je ne suis pas certain que l'argument soit reçu par beaucoup de ceux qui nous écoutent.
Je pense que le gouvernement essaye de mettre en place une stratégie un peu de transition énergétique qu'il faut un peu laisser le temps au temps. Maintenant, est-ce que la variable du prix du carburant, c'était la meilleure façon de commencer ? Je ne sais pas. Tout se pose, tout se questionne. Mais le gouvernement fait des choix.
Y compris le transport électrique, parce qu'il y a plusieurs questions qui se posent autour de la possibilité de mettre en place un électrique. Ça, ce n'est pas encore forcément très évident. Est-ce que Benjamin Lucas, ça ne pose pas de gros problèmes à la gauche, finalement, dans sa globalité, ce genre de mouvement ? Parce que d'un côté, effectivement, on a une volonté populaire et puis on se positionne quand même clairement contre Macron. Le mouvement du 17 novembre, c'est clairement un mouvement anti-Macron. On ne va peut-être pas parler de récupération pour tout le monde, mais
il y a deux dimensions dans cette affaire.
Pour vous.
Tout est politique, de toute façon. On ne peut pas dire que c'est une mobilisation qui concerne le prix de l'essence, elle est politique. Mais il y a deux dimensions. Il y a la dimension parfaitement légitime de la colère de ceux qui galèrent et qui payent en plus, qui payent 200 euros en plus par mois pour mettre de l'essence dans leur voiture. Et qui n'ont que ce choix-là pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, pour emmener leurs enfants à l'école, etc. Donc leur colère, elle est légitime. Mais il y a aussi des choix politiques. Il y a des choix politiques qui font que depuis des décennies, on incite au diesel, on incite à acheter des voitures, on ne développe pas. Enfin, on est face à un gouvernement qui ferme des petites lignes de train, qui ferme des gares, qui réduit le périmètre d'intervention du service public de transport alternatif, même si en milieu rural, ils sont déjà extrêmement faibles, je le vois dans mon département de la Somme. Et donc le vrai enjeu, moi je suis pour la sortie du diesel, je suis pour la sortie des énergies fossiles, je suis pour une véritable transition écologique. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fait payer les cadeaux fiscaux faits aux riches, on fait payer la fiscalité choisie dans le début de quinquennat aux plus pauvres, à ceux qui ont besoin de leur voiture. Et donc il faut, si on veut réussir la transition écologique, une fiscalité écolo réellement redistributive qui permet de développer des alternatives parce que sinon effectivement là on a un discours, on a une récupération de l'extrême droite qui effectivement alimente la concurrence entre l'urbain et le rural, qui alimente les haines, qui alimente les peurs, etc. Et donc il y a besoin aujourd'hui de faire des choix politiques courageux mais qui ne peuvent pas être faits de cette façon-là, qui ne peuvent pas être faits au mépris d'un certain nombre d'habitants de territoires ruraux qui ont besoin aujourd'hui de leur véhicule.
William T, il y a une formule que je vais reprendre à mon compte qu'on pouvait lire ce matin dans l'Opinion. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces citoyens fâchés mais pas fachos? Est-ce que c'est un peu ça qui ressort de ce mouvement du 17 novembre?
Mais moi je pense que ça a été, ça a été dit précédemment qu'apparemment ça a été récupéré par l'extrême droite. Dans les derniers sondages, il y a quand même 8 Français sur 10 qui sont favorables à ce mouvement, ils sont contre la hausse du prix du carburant, donc je pense pas que 8 Français sur 10 sont fachos en France. Et puis il faut poursuivre, c'est ce qu'avait dit Ségolène Royal, c'est que le gouvernement utilise le prétexte écologique pour remplir les caisses. On est passé de 700 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en 2007 à plus de 1 000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires pour cette année. qui se passe, c'est que le gouvernement essaye de se remplir les caisses parce qu'ils ont, ils ont des prévisions de croissance qui étaient moins hautes que ce qu'ils avaient prévu initialement. Et c'est pas fini, c'est que le gouvernement prévoit une hausse de 20 centimes supplémentaires sur le gasoil et sur l'essence. Mais pour ça, ils n'ont pas de plan de transition écologique. Ils pourraient notamment demander à Jean-Claude Juncker d'insérer dans le plan Juncker des thématiques écologiques pour les investissements. Dans leur plan d'investissement, ils pouvaient prévoir aussi des investissements supplémentaires et ils pourraient prévoir aussi des achats plus forts et d'incitations plus fortes pour les voitures électriques. Et puis on regarde notamment que c'est les Français les plus pauvres et les Français de la France périphérique qui sont touchés, parce que c'est ce que montre l'étude de l'OFCE, c'est les Français les plus riches qui bénéficient des mesures du gouvernement Macron, et c'est les Français les plus pauvres qui sont défavorisés.
Mais c'est aussi pour ça qu'il râle, a priori, si on vous lit bien. Mathieu Alterman.
La transition énergétique est effectivement l'élément le plus indispensable. Il ne faut pas sous-évaluer effectivement l'impact des voitures électriques. Je pense que dans 10-15 ans, on aura tous une voiture électrique. Maintenant, le vrai problème, c'est qu'on est en France, un pays
C'est pas garanti, hein, parce que.
Elon Musk, voyez ce qui se passe en Californie.
Il y a de nombreuses études, Mathieu Alterman, qui montrent que l'électrique, ce n'est pas forcément une solution pour l'environnement. La production de voitures électriques est aussi impactante sur l'environnement.
Sauf qu'on aura trouvé des solutions d'ici là, alors que pour les voitures avec les combustibles, on ne pourra pas trouver. Il n'y a pas d'autre solution. Bon. Le seul souci, on est un pays constructeur de voitures, on a un modèle de voiture électrique en France. On a un modèle qui est la Renault Zoé. Est-ce que c'est normal qu'un pays comme la France, quand même, on a Citroën, Peugeot,
d'où
Renault,
le fait qu'il faut des choix politiques industriels forts pour la transition
écologique. On n'a qu'une bagnole, c'est quand même n'importe quoi. Voilà, et effectivement, il y a des incitations. Vous avez 7000 euros de réduction quand vous achetez une voiture électrique, et je pense qu'il faut que les gens s'y mettent, parce qu'ils ne paieront pas l'essence et ça pollue moins.
Peu importe la couleur politique, la vraie question, c'est celle de la transition écologique.
Oui, et au-delà même de juste de changer sa voiture, il y a aussi la question de la verticalité dans les villes. La verticalité, c'est quoi? Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est le fait, en fait, de tout condenser et de réduire un peu ces grandes métropoles qui sont beaucoup trop grandes, où les gens viennent de toute façon systématiquement au centre pour travailler, et de condenser les villes, donc de mieux construire, de davantage construire, de favoriser l'accès au logement dans les métropoles comme Paris, où il y a vraiment, c'est très compliqué, les prix sont chers, on ne peut pas habiter à Paris quand on est une famille de trois enfants, etc. C'est devenu complexe. Donc il faut favoriser un peu cette verticalité, cette urbanisation. Je pense que dans le futur, on ne pourra plus juste avoir des campagnes reculées, etc., qu'on devra un peu plus tout condenser pour justement réduire l'empreinte écologique global. C'est juste une vision dans 100 ans comment la ville devra être, mais il faut aussi qu'on pense en prospective un peu plus long terme.
Ce que vous dites, c'est qu'on le fait plus parce qu'on n'a plus de commissariat au plan, on n'a plus de commissariat à l'aménagement du territoire depuis que Georges Pompidou nous a quittés. Donc c'est plus possible.
Bon, bref.
Est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement? C'est la dernière question que je vous pose, je vous demande d'y répondre très rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque au final de brouiller les clivages politiques autour justement de cette question environnementale qui sera primordiale à très court terme, Benjamin Lucas?
Non, je ne crois pas.
Très
parce
vite,
que,
hein,
justement, moi, ce que j'essayais de développer tout à l'heure, c'est que pour moi, une politique aujourd'hui réellement écologique, elle ne peut être qu'une politique extrêmement progressiste au niveau social, une politique de réduction des inégalités, parce qu'on le voit là, effectivement. Moi, par exemple, je ne pense pas que notre message soit de dire que tout le monde doit habiter en ville, dans des super immeubles, parce qu'on le voit bien, dès qu'on a un peu de moyens, le truc qu'on préfère, c'est d'avoir
c'est partir
un peu
à la campagne.
Alors, et je pense qu'il ne faut pas faire l'écologie au détriment de notre cadre de vie, et que par ailleurs, on peut faire les deux. Il faut renforcer les services publics, il faut renforcer. Voilà, une politique.
Mais à vous entendre tous,
l'écologie
c'est quand même une question. Benjamin Lucas, c'est quand même une question.
Ne peut pas se faire dans une société libérale, une société de la concurrence.
C'est quand même une
question. La chose qui compte, c'est la rentabilité.
Aujourd'hui,
il n'y a pas d'investissement dans les énergies renouvelables.
Ce que vous dites,
c'est
faux. Factuellement, c'est faux. Californie, San Francisco, première ville écologique, ok, hyper libérale. Donc ce que vous dites est faux. Vous prenez les villes où il y a une vraie politique écologique dans le monde, elles sont toutes dans un pays libéral, toutes et très libérales. San Francisco, le meilleur exemple. Donc ce que vous dites, je suis désolé, c'est pas vrai. Factuellement, c'est pas vrai. L'écologie ne doit pas être que punitive. En gros, l'écologie, ça peut marcher quand on explique aux gens qu'on peut faire de l'argent avec. Sinon, ça marchera jamais.
Mais c'est aussi un autre modèle de société, l'écologie, c'est pas basé sur l'accumulation.
Tu es d'accord avec
la croissance? Fatima Awasi, un dernier mot?
Un dernier mot, juste, non, mais faites attention à vos déplacements et limitez la voiture de toute façon. C'est des petits pas qui font des grandes choses.
Donc restez chez vous le 17 novembre.
Je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur la question en réalité, mais je peux comprendre l'agacement des Françaises et des Français.
Bon, bah écoutez, au moins, on sait que vous ne serez pas dans votre voiture à bloquer les routes le samedi 17 novembre, pas comme a priori donc 78% de nos compatriotes. Vous restez bien avec nous, on parle dans quelques instants sur Sud Radio de cette histoire qui nous a laissé un petit peu on va dire ça comme ça ce matin à la rédaction de Sud Radio, un curé mis à pied par sa hiérarchie dans le cadre des affaires de pédophilie. Est-ce que l'Église est dans le déni? C'est la question qu'on vous pose dans ce débat sur Sud Radio. Restez bien avec nous.
Sud Radio, 10h midi, débat.
C'est à lire aujourd'hui dans Libération. C'est le dernier sujet qu'on traitera ce matin, ce vendredi, sur Sud Radio, avec Fatima El-Ouazdi, William T, Benjamin Lucas et Mathieu Alterman, qui nous font l'amitié de débattre avec nous de l'actualité. Témoignage donc dans Libération ce matin, le témoignage de Pierre Vignon, un curé qui avait demandé publiquement la démission du cardinal Barbarin, de Philippe Barbarin. Eh bien, Pierre Vignon a été sanctionné par sa hiérarchie. Il n'a pas été reconduit dans ses fonctions de juge ecclésiastique. Pourquoi ? Il a eu le malheur d'être un lanceur d'alerte sur très actif, hein, il faut le dire, sur la pédophilie dans l'Église. Alors, il y a plusieurs affaires qui ont récemment défrayé la chronique, pas seulement en France d'ailleurs, hein, en Allemagne, aux États-Unis, pour ne souligner que celle-là. On a la sensation que l'Église de France se réunit d'ailleurs demain, hein, à Lourdes. Les évêques de France vont rencontrer pour la première fois, hein, quand même. Il aura fallu attendre 2018 pour que les évêques de France rencontrent des victimes de pédophilie dans l'Église. Ce sera donc demain à Lourdes. Est-ce que l'Église n'est pas tout simplement dans le déni, Mathieu Alterman ?
C'est pas qu'ils sont dans le déni, c'est que je pense qu'il faut qu'ils aillent consulter une agence de publicité qui leur apprenne comment on communique. Parce qu'entre ça, entre il y a trois semaines sur leur position sur la GPA, ils peuvent avoir les positions qu'ils veulent, mais enfin, la manière dont ils ont communiqué, c'était super violent. Je fais des débats très violents. Il y a un moment, leur but, c'est quand même d'évangéliser un petit peu les gens. Je pense que c'est un peu le but de l'Église. Et là, ils font un peu le contraire. Aujourd'hui, quand je veux avoir un avis sur quelque chose, je regarde ce que pense l'Église. Hein, je suis sûr qu'il faut faire le contraire. En gros, je comprends pas, en fait. Là, c'est quand même. Enfin, ils savent qu'ils perdent la bataille de l'opinion avec ça. Clairement, ils vont perdre la bataille de l'opinion. Pourquoi, quoi ? Ils veulent souffrir, en
d'autant
fait.
Dans le cas, c'est quand même d'autant plus grave qu'on a l'impression qu'ils tournent le dos à toutes ces questions. Fatima El-Ouazdi, par exemple, parmi les responsables qui ont sanctionné Pierre Vignon, il y a Luc Crépy, l'évêque du Puy-en-Velay. Lui, quand il a été contacté par nos confrères de Libération, il a dit tout simplement ne pas être au courant de la sanction appliquée à M. Pierre Vignon. Est-ce que c'est pas se moquer du monde un petit peu ? Enfin, et puis c'est quand même un mépris terrible pour les victimes.
Ouais, alors j'allais revenir sur ça. En fait, c'est quand même systématique dans les affaires de viol, de pédophilie, que les institutions protègent systématiquement les violeurs et les agresseurs. Pour moi, ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église catholique, ce qui s'est passé en Irlande, on a vu hein, 35 000 enfants qui ont été victimes de pédophilie à la suite de l'enquête qui a été menée par l'État. Mmh. C'est scandaleux et on a tout le temps un système où les gens qui ont le pouvoir...
C'est quand même symptomatique de l'Église actuelle.
C'est symptomatique de toutes les institutions où il y a un peu de pouvoir. Les partis politiques, ça a souvent été, longtemps été le cas. Je veux dire, c'est, à chaque fois qu'il y a des agressions sexuelles, on étouffe les affaires. Les lanceurs d'alerte sont écartés des institutions pour justement taire et masquer un peu la réalité. Moi, je trouve ça, oui, que c'est se moquer du monde que de dire que je ne suis pas au courant. Ce monsieur qui a eu le courage de dénoncer et de demander, parce que je pense que dans sa foi chrétienne, il y a tout ce qui est rédemption, le pardon, etc., qu'il est là en mode, j'ai envie que mon institution soit plus respectueuse des victimes et qu'elle, voilà, qu'elle fasse vraiment le ménage et qu'elle fasse acte devant la population française, devant les croyants, de bonne foi. Et là, ça est totalement passé à côté de la plaque.
Benjamin Lucas, alors Fatima El-Ouazdi parlait du rôle des lanceurs d'alerte, hein, qu'il fallait protéger. François Hollande l'avait proposé, hein, cette protection des lanceurs d'alerte. Ça n'avait pas forcément été très suivi derrière. Est-ce que, pour vous, il faut vraiment légiférer sur la protection des lanceurs d'alerte pour qu'ils puissent vraiment faire passer leur message en toute sérénité.
Oui, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, c'est vrai que les institutions, quelles qu'elles soient, elles ont toujours tendance à protéger pour se protéger elles-mêmes et à mettre souvent les problèmes sous le tapis. Mais qu'on puisse aujourd'hui, au regard des débats qu'il y a eu, des révélations qu'il y a eu, vous rappeliez l'Irlande, on voit ce qui s'est passé en France, on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, etc. Qu'on puisse aujourd'hui considérer qu'on peut sans problème sanctionner quelqu'un qui a dénoncé des actes pédophiles, c'est proprement scandaleux et révoltant. Donc on est là face à quelque chose de vraiment choquant. Quoi.
Et stratégiquement complètement idiot en plus.
Mais c'est effectivement à quel est aujourd'hui, après la légitimité de cette hiérarchie ecclésiastique, pour donner son avis, à tort et à travers, sur le mariage, sur la famille, etc., quand on voit que concrètement, quand quelqu'un dénonce, est un lanceur d'alerte, et donc permet d'empêcher ce que pourrait être demain d'autres agressions à caractère pédophile, il est sanctionné au lieu de sanctionner ceux qui ont couvert ou qui couvrent des actes de cette nature.
Et William T, avant d'aller au standard au 0826-300-300, est-ce que l'Église se tire une balle dans le pied avec cette communication ?
Un peu, mais après, il faut différencier
l'Église. Et ce comportement, hein, c'est pas qu'une communication.
L'Église, l'institution et ceux qui sont croyants. faut distinguer aussi la hiérarchie et la base.
Mais personne n'a fait la même chose.
Et les actions qui sont véritablement menées. Mais ça, c'est propre au pape François, qui, depuis sa prise de fonction, mène des incohérences, il annonce quelque chose, puis...
Il se contredit lui-même dans son discours.
Je pense que c'est plus la hiérarchie qui porte du mal à la foi catholique.
On va demander l'avis de nos auditeurs sur Sud Radio, 0826 300 300. On est avec Philippe, qui nous appelle d'Arles. Bonjour Philippe.
Eh bien, écoutez, oui, je pense qu'ils sont dans le déni le plus total, le plus absolu, le plus régressif qui puisse exister. Je ne sais pas qui a dit tout à l'heure chez vous, ils ont besoin d'une bonne agence de com.
Mathieu Alterman.
Voilà, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'ils prennent une agence de communication, mais ça ne servirait à rien. Parce que cette omerta, cette loi du silence, elle est là, on va dire, depuis longtemps. Mais elle n'a pas toujours été là. Rappelez-vous comment vivaient les papes d'Avignon, c'était l'inverse.
Moi, j'ai fait ça remonte à loin quand même.
Oui, d'accord, mais... j'ai dit aux gens qui me mettaient la main, puisque ça m'est arrivé quand j'étais jeune chez les frères, j'ai dit vous avez mal interprété la parole du Christ. C'est pas parce qu'il a dit laissez venir à moi les petits enfants qu'il faut les violer. Donc ça a été et tout. Alors c'était un peu de l'humour noir pour qu'ils comprennent que j'en avais marre de leurs agissements, mais leur comportement n'a pas changé. Et je dirais même que la hiérarchie catholique se tire plus qu'une balle dans le pied, en continuant ces pratiques du Moyen-Âge, à affirmer ça et à se mêler, comme quelqu'un de votre équipe l'a dit aussi, de tout et de rien. Qui s'occupe de la foi et qui nous foutent la paix sur le reste.
Vous-même, vous êtes pratiquant, Philippe ? Vous êtes croyant ?
Non. Alors là, je vais vous dire, ça m'a vacciné de manière définitive contre toute religion. Je suis un laïc, mais à 100 000%. J'ai rien contre, mais je veux surtout pas qu'ils viennent s'occuper ni du pouvoir, et ça a été le cas souvent, l'Église était un pouvoir, et ça n'est qu'un pouvoir.
Ça l'est encore aujourd'hui. Hein.
Merci, Philippe. C'est l'opium du peuple.
Moi, je ne suis pas toxicomane.
Merci, Philippe, d'être intervenu au 0826-300-300. Fatima Eloisi, vous vouliez réagir.
Oui, parce que on voit que c'est encore un pouvoir, parce que la commission d'enquête qui a été certains sénateurs, parce que pas tous, ont tenté de lancer une commission d'enquête sur les crimes pédophiles dans l'Église catholique française. Et la commission ne verra jamais le jour. Donc on a quand même des initiatives du politique pour un peu essayer de comprendre et de mettre, de casser un peu l'omerta, comme disait Philippe, autour de ces crimes pédophiles. Et d'un côté, on a quand même une institution qui fait énormément de lobbying sur les auditions, sur la loi de bioéthique. On a des monseigneurs, des évêques qui sont là et qui sont auditionnés par les parlementaires, moi ça me choque.
Vous comprenez pas cette
il y a trop d'interférences de toutes les religions, de toutes les religions dans le politique. Moi j'en ai vraiment ras-le-bol de que ce soit l'islam, le catholicisme ou le judaïsme. Franchement, faut qu'on arrête de nous bassiner avec les religions. Faut que le politique reste politique et faut que la laïcité soit garantie à peu près partout. Moi je suis très laïque et je refuse de voir des institutions déjà se cantonner à leur pouvoir et donc bloquer l'interférence de la justice et les enquêtes. Pour moi, ça me choque beaucoup, oui.
Bon, il y a quand même un procès qui est attendu, qui va arriver, celui donc du cardinal Barbarin. Benjamin Lucas, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ce procès ? Est-ce que les victimes peuvent vraiment attendre quelque chose de ce procès ? Est-ce que ça peut créer un électrochoc ou ça va être un coup d'épée dans l'eau ?
Oh, moi, je fais confiance à la justice. Je pense qu'elle sera sur ce domaine bien plus efficace que l'est la hiérarchie de Barbarin. Que oui, effectivement, il faut qu'il y ait un signal qui soit envoyé parce qu'il y a des familles, il y a aussi sans doute des milliers d'enfants, d'anciens enfants, etc., qui voudraient parler. Et ce genre de signaux envoyés par l'Église qui sanctionne celui qui a dénoncé ça risque d'empêcher certains de parler, de se sentir en capacité de s'exprimer. Donc là, il faut attendre beaucoup de la justice sur ce sujet.
Même si on sait qu'il y aura vraisemblablement une peine de prison avec sursis.
Alors justement, non mais je vous coupe, mais puisque vous en parlez de la peine requise, on n'y est pas encore, bien sûr, mais il y a d'autres procès en cours, notamment celui d'un des prêtres, Pierre de Coy de Castellet, qui a été protégé par son évêque André Fort, ça c'était à Orléans, et il y a quand même eu un an de prison ferme requis à l'encontre de l'évêque qui avait caché les actions de son prêtre.
Un an de prison ferme, pas en prison en France.
Oui, un an de prison ferme.
C'est pas suffisant.
C'est insultant. C'est insultant pour les victimes, c'est des choses... Moi, vraiment, je veux revenir à ça, je ne comprends pas comment une religion qui pratique le prosélytisme, puisque c'est le cas de l'Église, à savoir qu'il y a de plus en plus de catholiques, fasse ça. Enfin, les mecs, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire, vous entendez ça, vous n'avez pas envie de vous faire baptiser, vous avez peur. Donc, il faut se remettre en question. Comment cette Église qui a fait quand même Vatican II, qui était un truc exceptionnel, Vatican II, on rappelle, qui a été la révolution de l'Église dans les années 50, comment ils peuvent aujourd'hui revenir à un truc... C'est le nom de la rose, là, hein, qu'on vit. C'est même, je ne comprends pas cette logique qui est juste complètement idiote. C'est-à-dire, stratégiquement, ils sont à côté de la plaque, en fait.
William T.
C'est de mauvais dirigeants qui nuisent à la foi catholique. C'est tout.
Mais est-ce que le pape François peut peser vraiment? Est-ce qu'on peut attendre de sa part une réaction?
Le pape François est réactionnaire. Non, mais
ça reste un dirigeant religieux.
Mais bien sûr. Mais quand on a vu ses propos sur l'avortement, là, qui m'ont. Et sur l'homosexualité aussi, comme quoi l'homosexualité c'était une maladie.
Ça fait 6 mois que le pape est un pape et qu'il se comporte et qu'il parle comme un pape.
On peut pas faire confiance à des dirigeants, je dirais, religieux pour faire l'exégèse à l'ère de 2018 de leur religion. Je pense que c'est pas possible, même pour les chrétiens.
Alors ça
c'est même pas leur rendre service à eux que d'attendre ça d'eux, parce que
il y a eu des papes qui ont joué des rôles quand même. Paul VI notamment, il y a eu tout un travail, notamment les relations avec les autres religions.
Joue, par exemple, sur la question
et Jean-Paul II aussi a quand même fait des choses.
Voilà. Prenons-les pour ce qu'ils sont, qu'ils donnent un avis, ils ont le droit de le donner, de l'exprimer, publiquement. Les religions ont le droit de s'exprimer, mais c'est pas leur avis qui fait l'agenda politique et démocratique.
Le seul intérêt que je vois à l'Église catholique, c'est son rôle de diplomatie, que je trouve assez intéressant au niveau du monde. Ils font un véritable travail de un peu en sous-marin des autres États et qui font un travail sur des communautés partout dans le monde et qui est intéressant. Par contre, tout ce qui touche aux mœurs, etc.
Oui, d'ailleurs, on les a pas beaucoup parlé sur l'élection au Brésil de Jair Bolsonaro.
Quand on voit le poids des évangélistes au Brésil, bah oui, forcément, on entend
pas. Faut pas aussi sous-estimer l'implication de l'Église dans l'action sociale et locale.
Moi, j'ai pas du tout minimisé la chose. J'en ai même pas parlé d'ailleurs.
Non, mais je pense que l'Église catholique française a eu un rôle important qui a structuré la vie et la construction du pays. Après, est-ce qu'aujourd'hui les dirigeants sont incompétents et mauvais?
Comme partout, je peux faire l'abbé Pierre à Barbara. Moi, comme partout, il y a des progressistes, des gens qui apportent à la collectivité, puis d'autres qui la
font. Il s'appelle Barbarin, qui est quand même le nom du méchant dans Rémi sans famille. Je ne sais pas si vous rappelez ça, mais monsieur Barbarin, on en parlait tout le temps, et dès que j'entends son nom, je repense à ça.
Les passerelles sont quand même vite franchies. Bon, effectivement, donc on suivra de près, évidemment, à la fois la conférence des évêques, hein, qui sont donc réunis demain à Lourdes et qui feront face aux victimes donc de la pédophilie dans l'Église. C'est une première et ce sera donc demain à Lourdes. Et puis il y aura le procès évidemment de Monseigneur Barbarin qui sera lui aussi très médiatisé et dont on vous tiendra au courant, informé bien sûr sur Sud Radio. Il me reste à vous remercier Fatima El-Ouazdi, présidente et cofondatrice de Politiquelle, William T, président du think tank Le Millénaire, Benjamin Lucas, membre du mouvement Génération, et Mathieu Alterman, journaliste et auteur, on le rappelle, des Larmes de Johnny.
Les Larmes de Johnny qui est sorti il y a 15 jours.
Au Carnet Nord, voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour ce débat. Sud Radio, ça continue évidemment. André Berkoff dans quelques instants. Berkoff dans tous ses états.